voix nue. Cette semaine, France Culture rend hommage à la chanteuse Juliette Gréco, récemment disparue. Nous l'écoutons au micro d'Hélène Azéra en 2001. Ce soir, à Saint-Germain-des-Prés.
J'ai commencé par voir. Je suis entrée dans un endroit qui s'appelait le Café de Flore, où il faisait chaud, et où on pouvait boire une sorte d'ersatz de café avec de la saccharine qui était dans des petites bouteilles de verre avec un bouchon, avec un trou d'un côté, comme ça on secouait ça, et ça sucrait. Et on pouvait rester longtemps. Or j'avais très très froid dans ma pension de famille, et je m'installais dans un petit coin, et je faisais comme si j'existais pas, et puis je prenais un café, puis je restais là une heure ou deux. Donc j'en profitais pour lire un peu, comme faisait presque tout le monde d'ailleurs. Et là, je voyais passer des gens.
Quel livre vous aviez entre les mains? Là, vous n'aviez plus la bibliothèque familiale.
Non, j'avais les livres d'Hélène Duc. Normalement, c'était des livres... Je lisais les classiques français parce que je voulais devenir comédienne. Et je lisais et relisais sans cesse le rôle d'Hermione, que je trouvais me convenir parfaitement comme une sotte.
Comment c'est une pension de famille à Saint-Germain sous l'occupation?
Dans cette pension de famille, il y a un monsieur d'un certain âge qui s'appelle Pierre Riche, qui fabrique des masques de théâtre. Il y a un monsieur et une dame qui s'appellent monsieur et madame Fourcade. Et puis j'ai rencontré Gérard Philippe chez les Fourcade, qui habitait au-dessous de ma petite chambre à moi. Je le regardais monter l'escalier parce que il ne montait pas les escaliers, il volait. Un archange de beauté et de légèreté. Donc il me plaisait bien. Eux, ils avaient deux immenses chambres très chics. Mais moi, j'avais un carreau cassé. En 40 ans, ça a été terrible. Et de la neige, tout. Et puis, je ne pouvais plus sortir parce que j'avais des chaussures en raffia et elles faisaient floc-floc. Et puis, il a fallu que je jette mes chaussures en raffia parce qu'elles étaient pourries par la neige. Ce qui fait que j'ai passé un sale moment. J'ai rencontré Alicia Pritch, qui était une amie d'Hélène Duc. Alicia Pritch, elle chaussait du 41.
Elle était beaucoup plus grande que
vous. Oui, mais elle m'a donné une paire de chaussures, avec des semelles de crêpe. C'était comme si elle m'avait offert la pantoufle de verre. Il y a une merveilleuse comédienne qui s'appelle Yvette Etiévan. Il y a un homme qui s'appelle Jean-Serge. Il y a une dame qui s'occupe des lépreux, à l'Institut Pasteur. Il y a un monsieur dans le tournant de l'escalier qui sort de sa boîte tous les jours vers 5 heures parce qu'il habite juste le creux de l'escalier et juste la place sans doute de mettre un lit. Et il sort toujours en habit noir avec une chemise blanche et une cravate noire. Il est donc garçon de café ou maître d'hôtel, je sais pas. Et il s'appelle Monsieur Gomez. Il a les cheveux plaqués comme Carlos Gardel et il sort comme un diable de sa boîte dans le tournant de l'escalier. Et il y a une dame qui possède l'endroit, qui s'appelle Madame Morin, et qui a toujours des cheveux assez maigres, tournés en toutes petites boucles avec des épingles neige pour après ça essayer de gonfler la chose quand on passe le peigne dedans. Elle est toute ronde et dans sa chambre, qu'on aperçoit parfois quand la porte est ouverte en montant l'escalier, il y a des poupées de salon, des poupées avec des pieds raides. Et des chaussures peintes sur les pieds, comme ça. C'est absolument fascinant. Moi qui sors d'endroits plutôt, à part ma petite cellule de frêne, un peu étroite, j'ai toujours vu des choses très belles à la maison. Et je suis très, très étonnée de tout ça.
Est-ce qu'il y a une cohésion d'esprit entre les pensionnaires ou est-ce qu'il y a des gens qu'on sent plutôt du côté de la collaboration, plutôt du marché noir, plutôt du côté de la résistance?
Je crois que c'est plutôt du côté de la résistance parce que Hélène Duc ne serait pas restée là. Elle aurait eu trop peur de mettre en danger les gens qui passaient par ma chambre et dans mon lit quand j'y étais pas.
Donc il y a des gens qui passent plus ou moins au vu au sud de tout le monde qui fait semblant de ne rien voir.
Je pense que c'est ça. Il y avait un marionnettiste qui s'appelait O'Brady, qui était là aussi, et qui faisait partie de la résistance et qui donnait de précieux renseignements à tout le monde, et qui m'aimait beaucoup, et qui me disait, tu as une belle voix, viens, on va chanter. Et il y avait un piano déjà cordé dans l'entrée, comme dans presque tous ces vieux hôtels qui ont disparu maintenant. Et là, il me faisait chanter, et je chantais. Mais je chantais comme tout le monde chante dans sa salle de bain, quoi. Je chantais. J'avais une voix de stentor. Et puis, je chantais des chansons de Piaf, je chantais des chansons d'Yvette Guibert. Hein. Et puis, de temps en temps, Madame Morin donnait un dîner, c'est-à-dire qu'il y avait à peu près de quoi manger. Et je ne sais pas comment elle se débrouillait, mais enfin, elle y arrivait. C'est-à-dire qu'il y avait un tout petit peu de viande, comme ça, une chose qui semblait très très bonne à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, nous ne désirons pas vraiment manger de la viande. Donc à ce moment-là, c'est une chose comme du caviar, que c'est une chose extraordinaire. Et là, on me dit, tu veux chanter ? Alors je chantais pour faire plaisir aux gens. Mais j'avais peur, ça ne me plaisait pas vraiment. Et je ne pensais pas du tout en faire mon métier, surtout pas. Je prends des cours d'art dramatique chez Solange Sicard, qui sait que je n'ai pas l'argent, qui me donne des cours et qui dit...
Elle sait que votre mère est...
Sans doute. Oui. Hélène Duc a dû lui parler. Moi, je ne parlais pas. Donc Hélène a dû lui dire certaines choses et elle m'a arrangé ses cours que je suivais avec un grand bonheur, une passion folle. Et puis, voilà, quoi. Elle a dit, elle me remboursera plus tard.
Vous préparez le conservatoire à ce moment-là ?
Je me suis fait lourder parce que Madame Dussane a écrit... j'avais passé Hermione, bien entendu. Chaud de 3 mois à suivre.
Ce qui n'était pas si méchant que ça.
Je l'en ai voulu jusqu'à la fin de ses jours.
Vous assistez à une des choses les plus importantes dans le théâtre à l'époque, c'est la première du soulier de satin.
C'est-à-dire que je suis sur la scène sous une bâche. Mais quand je passe devant le concierge, il me salue. C'est quand même fou, quoi. Pour une apprentie comédienne, on passe devant... Bonsoir, mademoiselle Gréco. Waouh ! C'est une espèce de folie, comme ça. Et oui, mais on monte sur la scène et puis on est sous une bâche où il y a des vagues peintes. Et on transpire là-dessous, tous.
Oui, donc vous vous frottez au plus prestigieux monde du théâtre de l'époque.
Oui, je les vois. Je les vois, je les regarde... je les admire profondément et je rêve. Et j'apprends à bouger mes bras et à faire la vague. Je recommence un petit peu ce que j'aimais, c'est-à-dire exprimer avec mon corps, mais personne ne me voit.
Le Flore est à combien de mètres de votre pension ?
Ben, je traverse la place Saint-Sulpice, je descends la rue Bonaparte et je traverse le boulevard Saint-Germain. Voilà, ça y est, j'y suis. Quand j'entrais au Flore, les gens me regardaient bizarrement. Il faut dire aussi que j'avais une tête bizarre, j'avais un physique très bizarre, dans le genre lévite, dans le genre...
Vous habillez en homme ?
Je m'habillais en homme.
Avec des complets d'hommes parce que vous n'aviez pas de quoi vous offrir des robes de femme ?
Non.
Il faut imaginer...
Mais de toute façon, j'aime ça, de toute façon,
Il faut imaginer qu'on est encore dans un monde où la femme, femme en cheveux, c'est une chose qui...
C'est très 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 limite. Comme les garçons sont plus grands que moi, je suis obligée de retrousser mes pantalons, ce qui va devenir la mode.
Les grands revers, oui.
Hein? Pantalons, les jeans retroussés, les manches d'hommes aussi retournées parce que les manches de veste, elles m'arrivent au bout des doigts. Donc, de la misère, j'ai fait une mode, curieusement. Et de cette couleur noire, aussitôt que j'ai pu m'acheter quelque chose, j'ai acheté un pantalon noir, un chandail noir. Et tout ça est devenu une mode. J'étais une jeune personne extrêmement scandaleuse et j'avais un chandail noir, un pantalon noir et des pieds nus dans des sandales et parfois pas de sandales parce que les lanières craquaient. Donc je me baladais avec mes sandales cassées à la main. Et je suis entrée, j'avais rendez-vous, j'avais de grands cheveux, genre Napoléon au pont d'Arcole, enfin Bonaparte exactement. Et je suis donc arrivée dans ce magnifique restaurant où j'avais rendez-vous avec des gens prestigieux, pour lesquels j'avais une admiration et une tendresse formidables, qui étaient Boris Coquenot et Christian Bérard. La petite fille que j'étais avait rendez-vous avec ces gens-là. Et je suis entrée et à une table, il y avait Edwige Feuillère et François Mauriac. Et Mauriac, avec son côté absolument frondeur, contrairement à ce qu'on pourrait croire, s'est levé au milieu du restaurant, tout le monde me regardait comme si j'étais le monstre de Loch Ness, enfin une chose affreuse. Et j'ai levé au milieu du restaurant, il a écarté ses grands bras, et a dit « Dans mes bras, Gréco !» Et là, la Feuillère était enchantée, parce qu'elle a toujours aimé ce genre de choses. Elle dit « Ah, Gréco, mais venez vous asseoir !» Et moi, je suis restée raide comme la cierge. Et je suis allée vers Mauriac, qui m'a pris dans ses bras, qui m'a embrassée. Et je lui ai dit, j'ai rendez-vous avec Boris Kokhno, puis avec Esther Vera. Il me dit, allez, voilà. Mais il était extrêmement violent.
Mais lui savait que vous étiez
la fille de ma mère, oui. Ma mère, à un moment donné, paraît-il, devait épouser le frère de François Mauriac Pierre.
D'accord.
Et l'année d'après, je suis retournée sur la Côte d'Azur, où je chantais chez Anne Badel à Jean Lupin. Et là, il y avait des dizaines de petites gréco-milliardaires. Et c'était absolument fascinant. Je me disais, enfin, qu'est-ce qu'elles ont ? Alors que moi, je n'avais rien. Si, j'avais la passion.
À partir de quand vous sentez que vous devenez un personnage dans ce milieu ?
Jamais, non.
Vous savez bien, à un moment, les photographes ont voulu vous photographier.
Oh, bon, oui, mais c'était...
On a commencé à vous inviter.
Pour leur faire plaisir.
On a commencé à vous inviter.
Ah, j'ai toujours dit qu'on avait commencé à m'inviter quand je n'avais plus faim. Et je le disais aux gens. Je le disais. Je disais, maintenant que je n'ai plus faim, on m'invite. Or, je n'avais pas faim, d'ailleurs. J'avais pris l'habitude de me débrouiller comme ça.
Donc, vous allez, en fait, au théâtre par votre...
Oui.
Par votre petit réseau d'acteurs.
En revanche, j'ai vu huis clos. Enfin, j'ai vu Clos, j'ai vu Les Bouches Inutiles, voilà. J'ai vu des choses comme ça, mais je ne sais plus si c'était pendant ou après l'occupation, ça. Je ne me rappelle plus. Je vais au théâtre.
Les mouches.
Je vois Caligula, je vois des choses comme ça. Mais je vois ça par des copains, j'arrive à entrer.
Vous avez des souvenirs de la libération de Paris ?
Bien sûr. Souvenir éblouissant, oui. Souvenir éblouissant.
Vous êtes où ?
Je suis rue Servan-Denis. Il y a une fille qui me prête une robe à fleurs. Et je vais rue de Tournon. Voilà. Et je danse et je chante. Et je ris. Et je me fais embrasser par plein de garçons qui ont posé leurs fusils, heureusement.
Votre apprentissage de l'amour depuis cette bonne sœur.
Depuis cette bonne sœur, si le premier homme qui m'a séduite, c'était un coureur automobile, qui était très beau, très courageux. Je croyais qu'il était très courageux. Il m'a toujours dit qu'il était mort de peur, ce qui est vrai. D'ailleurs, je l'ai vu une fois. Mais il était marié à une femme extraordinairement fortunée et il m'envoyait des télégrammes d'amour de tous les bouts du monde. Et puis il est mort, comme il avait cherché à le faire. Un matin, au petit jour, il était en Argentine, et il faisait des essais. Il faisait à peine jour. Et un enfant a traversé la piste, et pour pas écraser l'enfant, il est mort. Voilà. Or, avant qu'il parte, j'avais rêvé sa mort. Je l'avais vu très très exactement comme ça s'est passé. Ça ne m'a pas surpris, mais ça m'a déchiré complètement, m'a mis en morceaux pour longtemps.
Votre premier amour est un amour tragique, en fait.
Tragique, complètement tragique, mais désespérant. Je mis très longtemps à m'en remettre, et puis quand je m'en suis remise, je m'en suis très très bien remise, extrêmement bien. Je suis devenue d'une férocité totale. C'est-à-dire que c'est tout juste si je sifflais pas les mecs. C'est devenu absolument terrible.
En général, ils sont terrifiés quand on les siffle.
Mmh, ouais.
Ils ont très peur.
Non, oui. Bon, ils s'en remettent.
Donc là, la libération de Paris, oui. Donc la joie, le bonheur, oui. Et là, le retour de Caen de votre sœur.
Oui,
et de
je
votre
vais
mère.
Au Lutetia, parce qu'on me dit que là sont les déportés, ceux qui rentrent en tout cas. Ceux qui reviennent. Et j'arrive et j'entre dans ce grand hall de Lutetia. Je vois des centaines de gens debout. Et il émanait d'eux une odeur très, très particulière. Qui, je l'ai su depuis, est celle de la mort. Très curieux. Ils avaient encore leur robe rayée. tout d'un coup, je sens un papillon sur mon épaule et c'était la main de ma sœur qui devait peser une bonne quarantaine de kilos. Et je reconnais ma sœur. Je me retourne et je vois ma mère. Voilà.
Elles se sont retrouvées
à l'aller et au retour. Elles ne portaient pas le même nom. Et on les a laissées ensemble sans savoir qu'elles étaient mère et fille. Donc, voilà. Et puis, ma mère s'est engagée dans l'armée, dans la marine. Elle m'a regardée, elle m'a demandé comment allait quelqu'un d'autre. C'est un peu cruel. C'est un couteau planté qui ne sort plus jamais du cœur.
Vous avez 17 ans quand elle est 18 ?
Oui, 18.
Ouais. 18. Vous avez là vraiment décidé de faire votre vie toute seule ?
Depuis longtemps, depuis que je suis sortie de prison, je suis toute seule. Oui, bien sûr.
Vous avez continué votre amitié avec votre sœur quand elle est revenue ?
Bien sûr.
Oui.
Bien sûr.
Vous avez...
Tout a repris comme avant.
Elle a écrit des chansons pour...
Oui.
C'est vraiment... On voit la complicité, une complicité très forte, là.
Ben oui. C'est une chose très profonde entre ma sœur et moi.
Comment elle vous a-t-elle vu devenir Gréco, votre sœur ?
Je ne sais pas. Je pensais qu'une certaine inquiétude, parce que mes débuts étaient difficiles, quoique glorieux.
De quoi vous viviez ?
Je vivais de poèmes que j'enregistrais. J'ai été standardiste dans une maison du tissu. Et ça donnait à peu près ça. Allô ? Oui ? Ne quittez pas, je vous le passe. Alors le patron est arrivé un jour absolument ahuri en se disant qu'est-ce que c'est que cette souris ? Qu'est-ce que c'est que ce machin-là qui est dans la cage ? Et j'étais effectivement dans une cage. Et il m'a dit, vous savez écrire, vous êtes capable... Je dis, oui monsieur, oui, tout à fait. Venez me voir dans mon bureau demain. Ben, je suis allé dans son bureau, je lui ai flanqué une claque.
Très vite.
J'ai compris pourquoi il me voulait me donner de l'avancement. Je me suis donc retrouvée toute seule dans la rue avec 1000 balles que j'avais empruntées à un type auquel je ne les ai jamais rendues. Voilà. Je trouvais que c'était quand même une vengeance normale et que cet argent m'était dû. Voilà. Donc, ça n'a pas fait très long feu. Et ensuite, j'ai commencé à faire des émissions poétiques.
Moi, ça m'intéresse beaucoup. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la...
Il y a eu d'abord Roger Vitrac.
Oui, qui est aussi un spectacle remarquable.
Remarquable.
Donc, Victor ou les enfants au pouvoir, monté par Michel Deray.
Oui. Et où je jouais le rôle d'une très vieille dame de 30 ans. Et c'est le choix de Michel Deray. Et Michel Deray m'a choisi pour jouer la comédie. Et moi, je ne lui ai rien demandé. Et j'étais heureuse qu'il fasse ce choix-là. J'ai donc pu exercer mes activités coupables.
Et ce n'était pas dans n'importe quel théâtre ?
Non, celui d'Agnès Capri qu'elle nous avait prêté.
Celui à Montparnasse,
oui.
C'était la Gaîté Montparnasse qu'elle avait reprise.
Oui.
Vous saviez déjà qui était Agnès Capri,
tout à fait. Je savais très bien qui était Agnès Capri, j'avais une admiration folle pour elle. Agnès Capri était d'abord une femme extrêmement intelligente, d'une beauté pointue, aiguë, qui avait un goût pour le choix des textes extraordinaires, et qui était peut-être l'équivalent d'une Yvette Guibert ou d'une Yvonne Georges, qui avait un charme assez puissant, mais très aigu, très...
Et un flair,
oui.
Un flair très sûr.
Absolument fabuleux, fabuleux. Donc j'avais beaucoup d'admiration pour elle, et j'étais contente... J'étais contente de la voir, j'étais contente de la regarder, j'étais contente de la respirer. Et j'étais fière qu'elle nous ait donné ce théâtre pour quelques jours. On a eu une générale très brillante et ensuite on n'a pas fait un rond. Voilà. Mais ça fait rien parce qu'on était très heureux. On était très heureux et puis on faisait ce qu'on aimait.
Alors en même temps, vous travaillez aussi comme comédienne de radio.
Oui.
Avec Jean Tardieu.
Oui.
C'est l'époque du club d'essai de la RTF, qui était une chose assez étonnante
dans l'université,
de la radio, où on donnait l'antenne à ce qu'aujourd'hui on qualifierait de fou complet.
Ah oui, bon, le ton poétique, c'était avec des gens prestigieux, enfin, des gens hors normes comme Michel Léris, comme Michaud, comme, comme Guilvic, comme... bon, il y a des tas, plein. Frénaud, plein de gens.
Vous avez beaucoup appris en travaillant pour la radio où on doit tout faire passer juste dans la voix?
J'ai fait comme je sentais. J'ai fait comme j'entendais. Tant et si bien que je me suis disputée avec Michaud, qui avait aussi sale caractère que moi. Et du haut de mes 19 ans, mes 20 ans, je ne sais plus, c'était insupportable. Je me disais, quoi, comment? Je dis, de toute façon, votre texte est indicible. Ce qui était vrai, c'était baobab, baobab, le soir dans la campagne, baobab, baobab. Au secours, quoi. Ouais. Dur, dur, vraiment, dur. Et moi, j'ai fait ça comme une sorte de tam-tam. Hein. Bon, je me faisais un cinéma, comme ça, je voyais des images de désert, je voyais des images, des bruits de désert. Hein. Puis c'est calmé, on s'est engueulé, vraiment, vraiment. Et je ne me rendais pas du tout compte que j'étais en train de m'engueuler avec Henri Michaud. Pas du tout. Oui, c'était comme ça. Et Michel Léris, c'était une chose, c'était un texte sur les miroirs. Et Michaud, Léris était très doux. Il m'a dit, j'ai écrit ça. Je dis, je crois, monsieur, c'est ce que j'entends. Il m'a dit, ah, je ne savais pas que j'avais écrit ça. Il était exquis, exquis. Je me rends compte à quel point ces gens ont pu être merveilleux avec moi. Merveilleux, patient.
Vous aimiez cette poésie contemporaine?
J'adore ça. J'adore dire des poèmes, j'adore ça. J'adore la poésie, c'est une chose qui m'a sauvé de mille morts. C'est une chose qui vous redonne la vie, qui vous donne l'espoir, quelque part.
Il y a une Juliette avant vous, c'est Madame Récamier. Qui, on ne sait pas pourquoi, mais tout d'un coup, il y a eu, on retrouvait son portrait jusque chez les sauvages de Patagonie, paraît-il. Et vous, il y a eu un moment, alors que vous ne faisiez rien, votre image s'est retrouvée, reproduite dans le monde entier.
Dans le monde entier. Y compris dans Life Magazine, qui à cette époque-là était quand même le plus grand journal du monde. C'est incroyable.
Et ça ne vous rapportait pas un sou?
Ah non.
Sinon, peut-être des entrées, des invitations, des oui, choses comme ça. Comment vous avez vécu cette espèce de célébrité très, très étonnante?
Je l'ai vécu en dehors. Est-ce avec que... un regard d'abord complètement étonné et ensuite amusé.
Qu'est-ce que vous aviez l'impression de représenter pour
rien
ces gens?
Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Je me rends toujours compte de rien. Je suis reçue comme une ambassadrice, parfois ne l'est pas. Enfin, c'était incroyable. Je ne sais pas. Il s'est passé quelque chose en dehors de moi. Moi, la seule chose qui m'intéresse, ce ne sont pas les retombées. Ce qui m'intéresse, moi, c'est faire l'amour. Et quand j'entre en scène, je suis bien décidée à le faire. Quand j'en sors, c'est fait. Donc, c'est la seule chose qui m'importe, ce sont ces instants d'ombre, de lumière et de respiration partagés. Quelquefois de larmes partagées, quelquefois de rires partagés. À dire vrai, c'est la seule chose qui m'importe, vraiment. Le reste, c'est faribole. Les honneurs, les décorations, les médailles. Pour moi, quelqu'un qui crie bravo dans la salle, c'est Cartier. Tout entier.
C'est plus important que cette célébrité dont on ne sait de quoi elle est faite.
Oui. Oui, ça m'intéresse pas vraiment. Vraiment, sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le rendez-vous.
Mais vous êtes comme un symbole. Alors, moi, je vais analyser un petit peu. Je veux dire, c'est un petit peu comme...
J'avais 20 ans, j'étais statufiée, oui. Oui.
Et vous représentiez la beauté du monde d'après l'horreur, d'après la Deuxième Guerre mondiale.
Ce sera, je crois, la chose qui me surprendra le plus dans ma vie. Oui. Les gens disaient que j'étais belle. Alors ça me tue, ça me tue, je me trouvais affreuse, moi. Puis je continue de ne pas me trouver belle
même,
du tout.
Même aujourd'hui, quand vous regardez les photos d'époque.
Ah, quand je regarde les photos d'époque, je me dis que c'est pas mal quand même. Oui, j'ai regardé ça hier. Quelqu'un m'a envoyé un vieux journal et je me suis dit, quand même. Je suis descendue dans la cuisine, je dis, ah, je suis pas mal, hein. Oui, c'est.
Comme on dit, vous jetiez du jus.
Ben oui, ça avait l'air pas mal. Mais moi, ça me plaisait pas du tout.
Mais vous rendiez bien compte.
Je me rendrais bien compte de ma puissance.
Voilà, de l'effet que vous faisiez sur les gens quand vous arriviez quelque part.
Oui. Oui. Et je ne savais pas pourquoi. Je comprenais pas. J'enregistrais la fourchette en l'air. J'entrais dans un restaurant, il y avait un petit silence. J'entrais dans un bistrot, les gens me regardaient et arrêtaient la conversation et la reprenaient après. C'était étrange pour moi. C'était choquant.
C'est très curieux parce que...
J'étais beaucoup toute seule.
Oui.
J'entrais seule et je sortais seule. Souvent. Ouais. J'étais quand même très seule.
Le Saint-Germain des copains, c'est venu après.
Je suis sauvage.
C'est la rencontre...
Avec Anne-Marie. Anne-Marie a eu une vie malheureuse. Anne-Marie m'a aimée comme on aime un enfant. Vraiment, profondément. Et c'était drôle, elle m'a regardé comme ça. Elle disait, tu sais, tu es belle comme Napoléon au pont d'Arcole. Je trouvais ça absurde, bien sûr. Mais elle aurait tout donné pour que je devienne ce qu'elle avait envie que je devienne. Et elle voulait que je réussisse à quelque chose. Elle le voulait. Et puis ça s'est passé bizarrement. C'est par exemple à travers elle que j'ai rencontré Sartre. Je faisais un petit peu vivre la famille. C'est-à-dire qu'on allait aux Assassins, on commandait un œuf mayonnaise parce qu'il y avait 3 morceaux. Donc, Astruc mangeait un morceau, Anne-Marie mangeait un morceau et moi l'autre. Et ça, c'était quand je travaillais. Par exemple, quand j'ai fait le temps poétique, ça m'a rapporté quand même des sous. Pas beaucoup, beaucoup.
Enfin, les cachets de la RTF en 1945, ça ne devait pas être formidable. Je crois que c'est pas.
Que c'est toujours pas le Pérou. Mais cela dit, la liberté a un prix. Donc, bon, je faisais ce que je voulais. Je faisais ce que je voulais, mais j'étais heureuse. J'aimais ce que je faisais. Je faisais un peu de figuration, je faisais un peu... J'arrivais à gagner un peu d'argent, quand même. Anne-Marie, je sais pas.
Surtout à acquérir votre indépendance.
Ah c'est... Liberté, liberté, chérie. Mot clé de ma vie. Liberté. Absolument. Absolument.
Vous retrouverez demain la suite de cet hommage à la chanteuse Juliette Gréco, enregistré en 2001 au micro d'Hélène Azéra. À voix nue, réalisation Manouchak Fachaï, Anne-Pascale Desvignes, attachée de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.